Radio Grand Ciel dans notre studio de Châteaudun pour notre émission de ma commune. Aujourd'hui, nous accueillons à nouveau notre cher musée municipal qui vient fidèlement de temps à autre nous parler en particulier de ses expositions temporaires. Et aujourd'hui, c'est Madame Lefrançois qui représente le musée. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Monsieur Maïchel.
Donc, musée des beaux-arts et d'histoire naturelle. Avant que vous ne parliez de l'exposition actuelle qui va nous promener dans les étoiles, je vais vous dire deux mots de l'exposition précédente, puisque c'est également notre musée des beaux-arts. Et cette exposition portait sur les habits féminins depuis le XVIIIe siècle. Alors, c'était une galerie de tableaux qui, certains appartenaient au musée et d'autres avaient été prêtés pour l'occasion. Et c'est, je crois, votre responsable qui était, elle, à l'origine de cette exposition temporaire.
C'est Marion, en fait.
Ah, c'était Marion, une jeune collaboratrice.
Voilà, absolument.
Voilà. Donc, depuis du 18e au 20e siècle, il y avait dans divers âges, à diverses époques, certains de ces tableaux ont été acquis par le musée de Châteaudun, donc on a dit. Alors c'était la mode du corset qui corsetait étroitement le thorax, la mode des jupes à cerceaux pour l'apparat, mais c'était peu pratique pour les travaux ménagers et le jardinage. Et les chaussures étaient très fines, du moins lorsque on sortait dans les salons. Et alors, c'était aussi la mode, c'était la pâleur du visage. Autrefois, quand on est bronzé, ça fait plus chic. Hein. Bon. Et alors, tout cela pour attirer les galants hommes de cette époque qui volaient au secours de ces dames, tellement elles étaient très fragiles à cause de leur pâleur. Et même certaines n'hésitaient pas à se faire des saignées pour perdre un peu de sang, pour être encore plus pâle, pour à nouveau séduire ces messieurs. Ah, vous êtes terribles, mesdames. Et il y avait aussi des habits de deuil qui étaient exposés. Hein. Alors le deuil, les habits étaient portés pendant 2 ans, et surtout après la première année, où cette première année, c'était le grand deuil, on n'avait aucune sortie mondaine autorisée. Un dernier mot sur cette exposition, c'était pour les pantalons qui étaient réservés aux hommes. Et rappelons d'ailleurs que lors du procès de Jeanne d'Arc, qui remonte à encore bien plus loin, puisque c'était au XVe siècle, le seul motif de condamnation qui finalement a été trouvé, et quelque part dans l'Ancien Testament, peut-être, quand on était vêtu comme un homme, c'était comme un sacrilège qui appelait la peine de mort. Alors vraiment là, ça, c'est affreux. Alors, mais quand même le port du pantalon pour les dames a été autorisé par décret à la fin du 19e siècle et il est devenu un attribut autant féminin que masculin dans les années 1960. Alors faut-il vraiment mélanger complètement nos attributs féminins et masculins, et peut-être qu'une nouvelle mode fera réapparaître les hommes, ou bien nous les hommes, on porterait d'amples vêtements, un peu comme des soutanes. Voilà ce petit mot d'humour pour terminer. Et alors maintenant, nous allons enclencher sur l'exposition qui a suivi, qui existe depuis le mois présente depuis le mois d'octobre à notre musée de Châteaudun. Alors, c'est une exposition qui nous mène dans les étoiles. Quel est son titre ?
Alors, son titre, c'est « Univers, univers, raconte-nous ton histoire ».
Alors, cette histoire, elle commence comment et qu'est-ce qui a un peu motivé ce choix de cette exposition ?
Alors, tout simplement, Parce que petite fille, mon père, qui s'intéressait à beaucoup de choses, et entre autres à l'astronomie, avait un télescope. Et régulièrement, il regardait la Lune, et notamment la mer de la Tranquillité. Donc chaque fois qu'il se présentait devant son télescope, il m'appelait. Et moi, j'étais très impressionnée, en fait, de voir cette Lune à travers son télescope. Et tout ce qu'il me disait autour de l'univers, à l'époque, évidemment.
Et puis aussi, dans notre région dinoise, il y a aussi, c'était au 19e siècle, je crois, un médecin qui était passionné de l'astronomie.
Oui, absolument, c'est le point de départ de notre exposition d'ailleurs. Le docteur Lescarbot, en fait, qui est né à Châteaudun et qui exerçait à Orgères-en-Beauce, était donc passionné d'astronomie. Et il avait installé au-dessus de sa maison un donjon pour pouvoir observer les étoiles. Et il a pensé à un moment, d'ailleurs il est mort toujours avec cette idée, qu'il avait découvert une autre planète qui se trouvait entre le Soleil et Mercure, et que Monsieur Urbain Le Verrier, qui dirigeait en fait l'Académie des sciences à l'époque, a dénommé la planète Vulcain.
Oui,
voilà, donc c'est le point de départ de l'exposition en fait.
Monsieur Vulcain, il était directeur de l'Observatoire à Paris.
Alors lui, c'était Monsieur Urbain Le Verrier, qui lui était directeur de l'Observatoire de Paris. Et c'est lui qui a dénommé la planète qu'aurait trouvée en fait le docteur Lescarbot, la planète Vulcain.
Mais en fait, en y regardant d'un peu plus près, en fait, on n'a pas pu faire la preuve.
Voilà, absolument. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a jamais pu revoir ce point net qu'avait découvert le docteur Lescarbot. Jamais on a pu vérifier que cette planète existait bien. Donc finalement, même si Monsieur Lescarbot, son nom en tout cas, a côtoyé au 19e le nom des plus grands astronomes de l'époque, en fait malheureusement pour lui, son nom est tombé un peu en désuétude puisque finalement on n'a pas pu prouver l'existence réellement de cette planète.
Alors, cette exposition, donc, c'est jusqu'à la fin de l'année.
Oui, absolument, c'est jusqu'au 31 décembre 2022.
Oui.
Donc il reste encore 2 mois pour la voir. Hein.
Oui. Et vous avez déjà accueilli des groupes d'enfants et fait des visites commentées.
Alors nous faisons des visites commentées sur demande. Nous avons déjà eu des centres aérés qui sont venus visiter cette exposition. Nous avons d'autres classes qui se sont inscrites pour le mois de novembre. J'espère qu'il y en aura d'autres encore. Parce que en fait, ça correspond aussi à un programme scolaire. Les enfants maintenant, en tout cas en CM1, CM2, étudient le système solaire. Donc, ils vont pouvoir, à travers les panneaux et les objets que nous avons présentés en vitrine, vérifier ce qu'ils ont pu apprendre à l'école et voir qu'il existe effectivement 4 planètes solides ou telluriques et 4 autres gazeuses.
Et ils sont attentifs aux explications ?
En général, ils le sont, surtout quand ils ont déjà un petit peu étudié en classe, l'astronomie. Quand ils n'ont pas étudié, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu confus parce que c'est un petit peu un domaine compliqué quand même pour les enfants. Mais généralement, quand ils viennent avec une classe, avec un enseignant, ils ont déjà auparavant étudié ce qu'étaient les planètes rocheuses et gazeuses.
À quel niveau, de quelle classe et...
Alors c'est plutôt orienté vers les enfants de CM1, CM2. Mais nous donnons aussi au musée un petit questionnaire aux enfants qui le souhaitent. Et là, l'âge abordé, c'est à partir de 8 ans jusqu'à 12 ans. Plus petit, c'est compliqué quand même pour les enfants d'expliquer ce que c'est qu'une planète, une étoile.
Oui. Et donc, même pendant les vacances, vous avez eu les enfants des centres aérés qui sont venus.
Oui, absolument. Déjà dès cette semaine. Et j'espère encore la semaine qui arrive, là, jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint.
Oui.
Et j'invite donc toutes les écoles de Châteaudun, en fait, à s'inscrire dès maintenant pour pouvoir visiter cette exposition.
D'ailleurs, il y a des grands panneaux et puis aussi des petits textes dans des...
Oui, absolument. Donc il y a des grands panneaux qui ont été prêtés par Centre Sciences à Orléans. Et j'ai travaillé donc sur le système solaire. Donc il y a des fiches techniques qui accompagnent ces panneaux. Donc, il y a une fiche technique pour chaque planète de notre système solaire. J'explique aussi ce que c'est que la ceinture de Kuiper, la ceinture d'astéroïdes et le nuage d'Oort.
Et alors, l'univers, il a commencé comment ?
Alors, d'après ce que nous disent les astrophysiciens, il aurait commencé il y a 13,8 milliards d'années, à partir du Big Bang.
Alors, qu'est-ce que c'était le Big Bang ?
Alors là, en fait, c'est une explosion nucléaire. Mais en fait, là, j'ai pas, si vous voulez, moi, je me suis surtout arrangée pour expliquer ce qu'était notre étoile et les planètes qui tournent autour. Je n'ai pas tellement abordé le Big Bang, en fait. L'exposition ne part pas à partir du Big Bang. Elle part réellement à partir de la naissance de notre système solaire. Alors, avant le Big Bang, par contre, on ne sait pas ce qu'il y avait.
On ne sait pas, oui. Il y avait notre Père qui est aux cieux, c'est ce qu'on dira de grand ciel.
Peut-être.
Notre système solaire, là, il est dans la Voie lactée.
Alors, notre système solaire se trouve dans une galaxie qui s'appelle effectivement la Voie lactée. Et notre système solaire se trouve, en fait, dans la banlieue d'un des bras de la Voie lactée, qui s'appelle le bras d'Orion.
Oui. Et alors, paraît-il qu'au centre de la Voie lactée, il y aurait un énorme trou noir ?
Oui, c'est vrai, c'est ce que les astrophysiciens nous expliquent. Je pense qu'il devrait se trouver au niveau du bulbe galactique, puisque... Oui. En fait, cette lumière condescendante que l'on voit en plein milieu de la Voie lactée s'appelle le bulbe galactique. Et on nous explique effectivement que le trou noir se trouverait au milieu, en fait, de notre galaxie. Mais il y en aurait une aussi au niveau de notre système solaire.
Oui. Et alors, même ils ont dit que d'ailleurs sur Radio Grand Ciel, il y a des émissions régulières depuis même quasiment 2 ans, ça va encore se poursuivre un petit peu, des petites émissions où ça s'appelle, voyons voir, les clés secrètes de l'univers, et on peut en podcast les retrouver sur notre Radio Grand Ciel, et il raconte qu'en fait cet énorme trou noir, ce serait une masse noire, finalement, que ce serait de condensation d'éléments. On dit même pas que ces masses noires aussi, il y a certaines, c'est les étoiles qui sont mortes. Racontez-nous un peu.
Alors, en fait,
les étoiles,
alors,
oui.
Les étoiles naissent à partir d'une nébuleuse. Une nébuleuse, c'est un nuage de gaz et de poussière. Et les étoiles naissent à partir d'une nébuleuse. Dans une nébuleuse, en fait, à la fois, c'est un berceau d'étoiles, mais aussi un cimetière d'étoiles. Puisque quand une étoile va disparaître, en fait, puisque sa vie prend fin, eh bien, elle devient une supernova. Et cette supernova, en fait,
Elle va s'éteindre.
Oui, pardon, excusez-moi. Elle va s'éteindre, en fait, dans une nébuleuse. Donc, à la fois une nébuleuse, c'est un berceau d'étoiles, mais c'est aussi un cimetière d'étoiles.
D'accord. Le berceau, c'est quand les poussières s'agrègent, là,
voilà,
les poussières pleines d'énergie, ça fait l'étoile.
Ça va constituer une étoile. Après, c'est très complexe. Hein. Moi, je ne suis pas astrophysicienne, donc je ne pourrais pas vous expliquer toutes ces choses savamment. Mais en fait, une nébuleuse, c'est à la fois l'endroit où il y a un cimetière d'étoiles et un berceau d'étoiles.
Vous nous inquiétez. Alors, notre soleil, il va mourir. Quand est-ce qu'il va mourir ?
Alors, il mourirait dans 5 milliards d'années.
On a encore le temps, alors.
On a encore le temps, nous avons le temps, oui. Et en fait, le Soleil est constitué d'hydrogène et d'hélium. Mmh. Donc, quand il aura consommé tout son hydrogène, il n'y aura plus que donc, l'hélium. Il va se transformer en étoile, en une géante rouge, qui devrait faire à peu près 100 fois le diamètre de ce qu'il fait actuellement. Et quand il ne restera plus que l'hélium, l'hélium va s'effondrer sur lui-même et il deviendra ensuite une naine blanche. Voilà. Et évidemment, comme toutes les étoiles, en fait, notre Soleil va mourir, en fait. C'est un cycle de vie, en fait.
Et il est né quand ?
Alors, le Soleil, on nous dit qu'il est né il y a un peu plus de 5 milliards d'années. Et on dit également qu'il est à la moitié de sa vie.
Voilà, on est à mi-course, là.
On est à mi-course, voilà.
Et donc, Donc le Big Bang, ça fait 38 milliards d'années, c'est ça ?
Le Big Bang aurait débuté il y a 13,8 milliards d'années.
Ah oui, 13 milliards d'années. Donc le Soleil, c'est plus récent.
Le Soleil, c'est plus récent. Il y aura d'autres soleils, comme il y en a déjà d'autres ailleurs, dans notre galaxie d'ailleurs.
Alors, notre cher Soleil, là, qu'est-ce qu'il il est bien entouré, n'est-ce pas, en particulier par nous ?
Alors oui.
Racontez-nous un peu sa compagnie, là, toutes les planètes qui gravitent autour de lui.
Alors, en fait, la planète la plus proche du Soleil est Mercure, qui se trouve à peu près à 58 millions de kilomètres du Soleil. Ensuite, nous avons Vénus, la Terre, Mars. Nous avons une ceinture d'astéroïdes qui sépare Mars de Jupiter. Et ensuite, nous avons les planètes gazeuses et les planètes gazeuses et glacées. Donc, Jupiter et Saturne sont des planètes gazeuses. Alors, pour les enfants, le côté un petit peu rigolo, c'est qu'on leur dit qu'ils ne peuvent pas y mettre le pied puisque le sol n'est pas dur.
On ne peut pas se poser dessus.
On ne peut pas se poser dessus. Et Uranus et Neptune sont à la fois gazeuses et glacées parce qu'elles sont encore beaucoup plus loin évidemment, que les planètes rocheuses et telluriques. Pour situer à peu près, Neptune est à 4,5 milliards de kilomètres du Soleil, alors que Mercure est à 58 millions de kilomètres. Donc évidemment,
oui.
Donc
c'est ça, plus on est éloigné de la source qui nous réchauffe, plus on a froid et on devient glacé.
Et on devient glacé. Et ce qui est curieux aussi, c'est que plus les planètes s'éloignent du Soleil, plus il y a de distance entre les planètes. C'est-à-dire qu'il y a plus de distance entre Uranus et Neptune, les deux dernières planètes du système solaire, qu'entre Mercure et Saturne. C'est aussi intéressant. Et plus une planète est éloignée du Soleil, plus son tour de révolution autour du Soleil est long. Pour donner encore un exemple, Mercure, il lui faut à peu près 88 jours pour faire le tour du Soleil. Alors que pour Neptune, la planète la plus éloignée, il lui faut 165 années.
Oui. Voilà. Et nous, il nous faut combien de temps ?
Et nous, 365 jours ou 364, évidemment. La Terre, évidemment, puisque nous parlons de la Terre.
Une année complète.
Une année complète, voilà, c'est cela.
Mais le Soleil lui-même, il gravite autour du noyau central de notre galaxie ?
Oui, absolument, lui aussi. Et d'après ce que j'ai pu lire, notre galaxie avance aussi à une vitesse de 2 millions de kilomètres heure, ce qui est hallucinant.
Mais elle avance, mais elle va où ?
Alors ça, c'est une excellente question. Elle continue d'avancer, mais comme l'univers d'ailleurs, puisqu'on parle d'expansion de l'univers.
Oui.
Donc l'univers est infini. Jusqu'où, on ne sait pas.
Ça, oui, c'est la grande question.
Je ne sais pas si nos enfants savent que les Chaldéens sont donc servis des planètes un petit peu pour indiquer les jours de la semaine. Le lundi, la lune, le mardi, mars, etc. Je ne sais pas si nos enfants le savent bien, ça. Je ne sais pas s'ils font le rapprochement.
Ça, je ne sais pas. Par contre, en revanche, pour se souvenir du sens des planètes, du nom des planètes dans notre système solaire, il y a un moyen mnémotechnique pour s'en rappeler. Il y en a plein, d'ailleurs. Mais il y en a un qui est assez drôle parce qu'il fait référence justement au ciel et qui est « Me voici tout mouillé, j'ai suivi un nuage ».
Expliquez-nous.
Alors me voici, me, c'est comme me comme Mercure en fait, voici comme Vénus, tout comme Terre, mouillé comme Mars, j'ai comme Jupiter, suivi comme Saturne, j'ai suivi un comme Uranus, nuage comme Neptune. Voilà.
Et voilà, on a fait le tour des planètes.
Et après, il y a Pluton, évidemment, Pluton qui faisait partie de notre système solaire jusqu'en 2006. Mais comme Pluton se trouve dans la ceinture de Kuiper, donc c'est une ceinture d'astéroïdes aussi, mais là, les astéroïdes sont plutôt, ce sont des corps glacés. En fait, les astrophysiciens l'ont dégradé, puisque pour avoir l'entité de planète, il faut avoir fait le ménage autour de soi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être entouré d'astéroïdes. Et comme Pluton est entouré d'astéroïdes glacés, comme d'autres petites planètes naines, donc elle a été rétrogradée au nom de planète naine. Donc Pluton ne fait plus partie de la neuvième planète du système solaire. Et au-delà de cela, nous avons le nuage d'Oort, qui se trouve à peu près à 160 milliards de kilomètres du Soleil. Et au-delà du nuage d'Oort, en fait, notre Soleil n'a plus d'attraction. C'est-à-dire que, en fait, il n'attire plus les éléments autour de lui. Mmh. Il perd son attraction gravitationnelle.
Mais vous nous avez, dans votre exposition, parlé aussi des astéroïdes qui peuvent nous bousculer, là, nous...
Oui, absolument.
Tomber sur nous.
Alors, non, ça, je n'en parle pas. Je parle des comètes. Je ne parle pas des... J'explique ce que c'est qu'un astéroïde, mais je ne parle pas des astéroïdes qui sont susceptibles de tomber sur les planètes. Les astéroïdes sont déjà tombés sur différentes planètes, d'ailleurs. Puisqu'on nous dit, on nous explique aussi qu'en fait la Lune serait née d'un élément qui aurait été à peu près de la grandeur de Mars, qui aurait percuté la Terre et qui aurait formé la Lune. Donc la Lune serait née en fait d'un élément aussi gros que Mars. Alors je ne sais pas si on pouvait parler d'astéroïde quand même, puisqu'un astéroïde peut faire quelques centimètres jusqu'à plusieurs kilomètres. Et ce choc entre... on va dire ce gros astéroïde ou cette planète pour lequel on n'a pas de nom aurait frappé en fait la Terre et aurait donné la naissance à notre satellite, donc la Lune.
C'est ça, et en rebondissant elle s'est éloignée de la Terre, mais comme la Terre a une attraction, hop, voilà. elle a été piégée,
elle tourne autour de la Terre comme les satellites de Jupiter ou de Saturne tournent autour de Jupiter et Saturne, puisque leur force d'attractivité fait en sorte que ces éléments tournent autour.
Et en fait, donc notre galaxie, la Voie lactée, qui est dans le ciel, une espèce de traînée de lait, ça ressemble un peu. Hein.
C'est une galaxie à spirale.
Ah oui.
Avec des bras.
Et il y en a beaucoup de galaxies dans notre univers,
Alors, il y aurait des milliards de galaxies. Alors, les chiffres sont différents, c'est compliqué d'avancer un chiffre, mais dans l'univers observable, parce qu'en fait, il y a l'univers aussi où on ne peut pas aller, c'est-à-dire qu'il y a des télescopes qui ne nous permettent pas d'aller jusqu'à l'univers profond.
Oui, on a fait beaucoup de progrès, justement, observable. Sur la technologie pour pouvoir observer tout ce qui est au-dessus de nos têtes. Mm-hmm. Déjà, on choisissait. Déjà en France, on s'est mis au plus haut, on s'est mis dans aux Pyrénées, on a fait un observatoire au Pic du Midi. Et dans d'autres parties du monde aussi, les télescopes, ils sont placés très haut. Et même maintenant, on a l'idée de mettre un satellite pour mettre un télescope dessus pour voir encore. Pour s'approcher encore plus
Eh bien, il y a des les télescopes sont énormes, elles ont un diamètre de 8 mètres. Après, il y a des engins, effectivement, qui sont envoyés dans l'espace et pour notamment sonder certains satellites comme Jupiter et certains satellites comme Saturne également, puisque Triton, par exemple, et Titan, on considère que ce sont des satellites qui ont les mêmes propriétés que la Terre, mais il y fait très froid. Donc, il fait 180 degrés, notamment sur Titan. Mais sinon, la structure serait assez équivalente à celle de la Terre.
C'est-à-dire que nous, on est quand même... on est un peu comme une étoile, mais avec une croûte au-dessus de la masse en fusion.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un noyau qui est fait un noyau dur qui est fait de fer et de nickel. Au-delà de ce noyau, il y a ce qu'on appelle le noyau extérieur, qui lui est fait aussi de fer et de nickel, mais en fusion. Et ce qui génère de l'électricité et sa rotation permet aussi les champs magnétiques de la Terre pour nous protéger des vents solaires du Soleil. Donc, on est bien placé, je dirais, parce qu'on n'est pas trop près du Soleil et on n'en est pas trop loin non plus. Mars est trop loin du Soleil. Vénus est encore trop près, et ce qui fait que, en fait, nous sommes à la fois protégés par ces champs magnétiques des vents solaires, mais les vents solaires, quand même, arrivent à pénétrer un peu l'atmosphère, ce qui explique notamment les aurores boréales ou australes. Et ce qui permet aussi de maintenir une température moyenne de 15 degrés sur la Terre, s'il n'y a pas du tout de vent solaire, s'il n'y a pas du tout assez de CO2, j'allais dire, même s'il n'en faut pas trop, il ferait moins 15 sur la Terre. Alors que là, on maintient une température de plus 15 degrés, en moyenne, évidemment.
Alors, maintenant que nous arrivons au terme de notre émission, Que peut-on conclure de tout cela? Est-ce que les réactions des enfants à la sortie, qu'en disent-ils?
En fait, certains sont assez médusés parce que quand on parle en fait de quelque chose qui nous dépasse totalement, à la fois c'est impressionnant, un peu inquiétant. Mais généralement ils sont plutôt contents. En plus, nous avons un petit mobile au musée que nous sortons de manière très sporadique pour leur montrer en fait de quelle façon tournent les planètes autour du Soleil. Et généralement, ils sortent du musée assez médusés.
Et d'ailleurs, on peut même y voir des maquettes, trois maquettes. L'une qui représente la navette spatiale. Oui. Une autre, la station spatiale internationale.
Oui, absolument.
Et puis un autre, c'est un satellite de télécommunication en orbite au-dessus de nos têtes.
Oui, absolument. Alors là, c'est le club d'astronomie du Dunois. Qui nous a prêté en fait ces maquettes en carton, et ils nous ont prêté également un télescope, quelques livres, et avec le président de cette association qui s'appelle Monsieur Plumet, nous devrions faire une sortie avant la fin de l'expo évidemment, mais il faut attendre que le ciel soit bien clair pour pouvoir observer les étoiles. Et là c'est intéressant parce qu'on pourra observer probablement Jupiter et Saturne à partir du mail, donc à partir de la place.
Merci pour ce nouveau rendez-vous que vous allez bientôt nous donner. En attendant, jusqu'au 31 décembre, on peut venir au musée voir votre exposition qui est très intéressante.
Et je précise que donc c'est l'entrée de 5 euros pour les adultes, mais c'est gratuit pour les enfants.
Voilà une bonne, bonne initiative. Et puis même, vous nous dites que nous avons quelques Dunois qui se sont... tellement passionnés qu'ils se sont réunis en club.
Oui, absolument. Le club, ce club s'appelle Ciel, en fait, oui. Et c'est un club d'astronomie.
Et on peut avoir, bien sûr, les coordonnées en allant à la mairie.
Tout à fait. On va nous... Ou aller au musée, également. Et je vous donnerai voilà. Les coordonnées.
Alors, au revoir. Et à une prochaine fois.
À une prochaine fois, et je vous remercie de m'avoir reçu, très gentiment. Merci.